Vade Boncœur, l'ancien curé de Lieuret dans l'Eure, a reconnu les faits dès l'ouverture de son procès ce matin devant la cour d'assises d'Évreux. Ce prêtre, qui est poursuivi pour viol sur mineur, a plaidé coupable. Cet après-midi, la cour entendra l'actuel évêque d'Évreux et son prédécesseur, Monseigneur Gaillot. L'AS Monaco annonce une conférence de presse cet après-midi. Pour l'instant, on ne sait pas qui y participera. Ce matin, l'entraîneur du club, Didier Deschamps, a présenté sa démission au lendemain d'une nouvelle défaite de son équipe. Dans un instant, la bourse avec peut-être des nouvelles de l'euro.
La bourse avec regionjob.com, site internet de recrutement et d'offres d'emploi en région.
Bonjour Vincent Bezeau.
Bonjour Claire.
Alors la bourse de Paris est en toute petite hausse.
Effectivement, l'incertitude politique en Allemagne pèse sur la tendance à Paris. Toutefois, le CAC 40 qui a ouvert en repli de 0,52% s'est raffermi puisqu'il gagne donc maintenant 0,09% à 4513 points dans des volumes de 1,8 milliard d'euros. Francfort, pour sa part, accuse le coup. La place allemande cède 1,07%. L'Eurofirst 80, l'indice de référence de la zone euro, trébuche pour sa part de 0,17%. Et vous vouliez des nouvelles de l'euro? Eh bien, l'euro est victime du flou qui entoure la composition du futur gouvernement allemand. La devise européenne chute de 0,75% à 1,2148. Le CAC 40 avance maintenant, clair, de 0,11%, 4514 points. La Bourse de Paris, Vincent Bezeau pour France Inter.
Merci Vincent. Vous écoutez France Inter, il est 14h03. Sans plus tarder, on passe à 2000 ans d'histoire. Patrice Gélinet, bonjour, c'est à vous.
Bonjour Claire et bonjour à tous. Aujourd'hui, dans 2000 ans d'histoire, au lendemain des élections en Allemagne, 1998-2005, les années Schröder. Si nous ne réussissons pas à baisser le taux de chômage, nous n'aurons pas mérité d'être réélus et nous ne le serons pas. Gerhard Schröder, en octobre 1998. D'histoire. Entre l'ultralibéralisme d'Angela Merkel et les réformes de Gerhard Schröder, les Allemands ont donc choisi de ne pas choisir. Il faudra attendre plusieurs jours pour savoir qui, de la patronne de la CDU ou du chef du SPD, dirigera le gouvernement du pays le plus peuplé et le plus puissant d'Europe. Une puissance en crise depuis qu'en 1998, Gerhard Schröder avait déjà fait de la lutte contre le chômage le thème principal de la campagne électorale qui l'avait porté au pouvoir. Mais 7 ans après, l'Allemagne se retrouve aujourd'hui avec 1 million de chômeurs de plus et une économie en récession. On aurait pu croire et on a cru jusqu'à hier qu'avec un tel bilan, Schröder et son SPD seraient largement battus par la CDU. Mais hier soir, les résultats étaient si serrés que dans les états-majors des deux partis, Angela Merkel et Gerhard Schröder criaient tous les deux victoire.
Nous pouvons affirmer, au vu des résultats, que la coalition des Rouges et des Verts, c'est du passé, et ça, c'est une bonne nouvelle. Il faut maintenant, pour les gens de ce pays, bâtir un gouvernement stable. Voici la mission. Et nous, à la CDU-CSU, nous l'acceptons, nous allons le faire.
Le parti du chancelier sortant, Gerhard Schröder, estime lui aussi avoir remporté les élections.
Qu'avec un résultat aussi désastreux, nos adversaires revendiquent la direction politique du pays, cela ne se fera pas, mesdames et messieurs. J'ai le sentiment de disposer d'un mandat pour garantir qu'il y aura dans notre pays, au cours des 4 années à venir, un gouvernement stable sous mon autorité.
Et c'était ce que l'on pouvait entendre hier dans le 20h de France 2. Dominique Vernet, bonjour. Vous êtes le directeur des relations internationales au journal Le Monde, dont vous avez été pendant longtemps le correspondant en Allemagne, mais sans jamais peut-être avoir assisté à une élection aussi serrée que celle d'hier. Rarement, je pense, la situation a été aussi confuse. Deux perdants qui affirment qu'ils ont gagné, parce qu'au fond, ce sont deux perdants.
Ce sont deux perdants, ils ne sont pas les seuls. Il y a beaucoup de perdants dans cette élection. Il y a 3 ans, le résultat avait été aussi serré, mais il y avait au moins une majorité qui s'était dégagée, une majorité en faveur des sociaux-démocrates et des Verts. alors que cette fois-ci, il n'y a pas de majorité. Et je crois que c'est effectivement inédit dans l'histoire de la République fédérale d'Allemagne depuis 1949, depuis sa création après la guerre.
Alors la vocation de 2000 ans d'histoire, c'est pas de commenter l'actualité. Les journalistes de la rédaction de France Inter le font très bien, mais nous essayons d'essayer de comprendre, au fond, de comprendre cette actualité en remontant dans le passé et aujourd'hui en revenant donc sur les 7 ans que Gerhard Schröder a passé au pouvoir. Un chancelier atypique, je crois d'abord que c'est le premier à n'avoir pas connu la guerre. Il est né à l'extrême fin de la guerre, en 44, et contrairement à ses prédécesseurs, il n'a pas connu, cela dit, elle a dû compter pas mal pour lui, puisque je crois que son père est mort au front en 44, juste avant la capitulation allemande.
Oui, c'est un chancelier atypique parce qu'il est né en 44, il n'a pas connu son père. Son père est mort au front en Roumanie, et d'ailleurs il a retrouvé la tombe de son père il y a que quelques années seulement. Il est né donc orphelin de père, sa mère était femme de ménage. Il était donc dans des conditions extrêmement modestes, et il est arrivé à la chancellerie, je dirais à la force du poignet, et il a fait sa carrière. D'abord, il a fait une carrière d'avocat, en utilisant les cours du soir qui en Allemagne sont très développés, depuis l'école primaire jusqu'à l'université, vous pouvez faire toute votre scolarité, vos études grâce à des cours du soir. C'est ce qu'il a fait. Il est arrivé comme ça faire une carrière d'avocat et en même temps à mener une carrière politique. Alors une carrière politique, j'allais dire tout naturellement, au SPD, au Parti Social-Démocrate, mais surtout d'abord chez les jeunes socialistes, l'organisation de jeunesse du SPD, dont il a été le président dans les années 70, au début des années 70. Et là, il était extrêmement proche de la gauche, quasiment marxiste.
Alors,
c'est pas un contestataire 68-art comme Joschka Fischer. Il n'a pas jeté des pierres ou des pavés sur la police, parce qu'il considérait que lui, il avait autre chose à faire, il faisait ses études, mais il était quand même très proche de la gauche.
Alors, il a beaucoup changé, il fume d'énormes cigares, il s'habille chez les plus grands couturiers aujourd'hui, mais il avait déjà changé juste avant de devenir chancelier. Hein. On le surnommait le camarade des patrons, et c'est vrai que il était prêt à admettre, après avoir été à l'extrême gauche, à admettre ce qu'on appelle le capitalisme de marché, une politique économique, en tout cas sociale, démocrate,
qui a été la base du miracle économique allemand après la guerre.
Oui. Il a cette formule, il disait déjà à l'époque, il ne s'agit pas de faire la différence entre une politique économique social-démocrate et une politique conservatrice, mais entre une politique moderne ou pas. Hein, il me fait penser un peu à ce communiste qui était Deng Xiaoping, qui a réconcilié les Chinois avec le capitalisme et qui disait qu'importe si un chat est blanc ou noir, pourvu qu'il attrape des souris. C'est un pragmatique.
Pragmatique totalement, mais il a eu ce surnom de camarade des patrons, alors qu'il était ministre-président, en quelque sorte premier ministre du Land de Basse-Saxe, où il y a la grande entreprise, notamment Volkswagen. Et en tant que ministre-président de Basse-Saxe, il était au conseil d'administration, de droit, au conseil d'administration de Volkswagen. Et c'est là qu'il a commencé à fréquenter les patrons et où il a reçu ce sobriquet. Il y a une autre anecdote qui le caractérise assez bien. On pourrait dire que, sans être trop péjoratif, que c'est un arriviste. C'est quelqu'un qui est arrivé, mais qui a toujours voulu arriver. Il a voulu arriver à la chancellerie, et en 83 déjà, il préparait avec ses amis de la gauche, voire de l'extrême gauche, avec les Verts, le futur gouvernement qu'il mettrait en place sous sa direction. Il refaisait des listes dans les bistrots de Bonn, qui était la capitale de l'Allemagne à l'époque. Et un jour, qu'il avait peut-être bu plus de bière que d'habitude, ses camarades l'ont retrouvé pendu aux grilles de la chancellerie à Bonn en disant « Je veux rentrer là-dedans, je veux rentrer là-dedans ». Et 15 ans après, il a réussi.
Oui, grâce à quelque chose aussi que n'avaient peut-être pas ses prédécesseurs à la chancellerie, ses 6 prédécesseurs, je crois, c'est un charisme extraordinaire. C'est ça, d'ailleurs, qui explique peut-être son ascension au parti. C'est ça qui explique aussi, sans doute, la remontée extraordinaire dans les sondages ces derniers jours. Et c'est ce qui explique aussi, peut-être, sa victoire il y a 7 ans, donc quand son parti, le SPD, battait la CDU d'Helmut Kohl au pouvoir depuis 16 ans. France Inter, Frédéric Barrère, le 26 septembre 1998, 48 heures avant la victoire de Schröder aux élections législatives.
C'est dans l'ancien Berlin-Est, à Prenzlauer Berg, le quartier à la mode aujourd'hui de Berlin, que Gerhard Schröder a choisi de tenir son dernier meeting de campagne. 9000 personnes l'attendent dans un vélodrome. Gerhard Schröder arrive en souriant, en faisant lever de la victoire. « Aussitôt, Gerhard Schröder critique durement Helmut Kohl. Kohl, dit-il, est le chancelier du chômage, il ne mérite pas d'être réélu. Et puis, Gerhard Schröder développe l'un de ses thèmes favoris, le bilan des socialistes en Europe en matière de lutte contre le chômage.
In Frankreich mit Lionel Jospin.
En France, avec Lionel Jospin, en Angleterre également, avec Tony Blair, en Europe, les socialistes luttent contre le chômage. Tous ont réussi à faire baisser le chômage dans leur pays.
Et c'était Gerhard Schröder, il y a 7 ans, 48 heures avant sa première victoire électorale, affirmant qu'il ferait, comme les autres socialistes européens, baisser le chômage avec des références, Jospin, Tony Blair. Un charisme, j'évoquais son charisme d'Alain Vernet, c'est vrai qu'il en a un, ne serait-ce que face à son adversaire d'hier.
Oui, il crève l'écran quand il est à la télévision, c'est une bête de scène quand il est dans les meetings, il sait très bien ce que la foule attend de lui, ce qu'il faut dire pour l'enthousiasmer. Il réussit comme ça à retourner des situations qui paraissaient désespérées, et pendant cette campagne c'est ce qui s'est passé. Il a commencé la campagne de très doucement, lentement, avec une certaine forme de résignation, et au fur et à mesure que la campagne se développait, au fur et à mesure qu'il voyait que ce qu'il disait, les critiques qu'il portait à son adversaire touchaient ses interlocuteurs, il a fait une fin de campagne absolument extraordinaire.
Grand mythe. Une grande maîtrise des médias aussi, hein, il est très attentif à l'image qu'ils vont renvoyer de lui. Et alors évoquant, on l'a entendu dans l'archive précédente, en 98, annonçant en substance qu'il ferait baisser le chômage, alors qu'il y a 1 million de chômeurs de plus depuis, mais dans une situation économique qui effectivement est grave. Comment expliquer, à partir de quand, Daniel Vernet, cette grande puissance, la première en Europe, la grande puissance économique allemande, a-t-elle été frappée par le chômage et pourquoi ? Par le chômage et par la crise économique.
Il y a beaucoup d'explications. La première explication, c'est certainement le coût de la réunification. Le poids que représentent les transferts financiers d'ouest vers l'est, qui continuent au rythme de quelque chose comme 90 milliards d'euros par an depuis presque maintenant 15 ans. C'est énorme. Et il n'y a pas beaucoup de pays qui auraient pu supporter cette charge. Mais c'est sans doute une des explications. La deuxième explication, c'est que le grand succès économique de l'Allemagne, qui était la première puissance exportatrice, elle est en train de le redevenir d'ailleurs, mais enfin qui était la première puissance exportatrice, était fondée sur tout son savoir-faire dans le domaine de la machine-outil, des machines, des voitures, des instruments, etc., etc., où la capacité allemande était telle que peut importer le prix des produits qu'elle vendait. Et ce n'est plus ce secteur qui est en pointe maintenant, c'est le secteur tertiaire, la nouvelle économie. Et dans ce domaine-là, l'Allemagne a pris au cours des, disons, 15-20 dernières années, beaucoup de retard. Troisième élément, c'est le coût de la main-d'œuvre en Allemagne. Et lié au coût de la main-d'œuvre, la rigidité du marché du travail, la rigidité de tout le système social, un système social très avantageux, qui était très avantageux avant les réformes Schröder, et qui pèse sur les coûts de production et qui ont beaucoup handicapé l'Allemagne sur les marchés extérieurs au cours de ces dernières années. Et j'ajouterai peut-être un élément, c'est l'euro aussi, parce que le Deutschmark s'est fondu dans l'euro à un taux extrêmement, extrêmement élevé.
Alors tout ça explique, avant même que Schröder arrive au pouvoir en 98, la nécessité de réforme, tout le monde était prêt à les admettre d'ailleurs, mais assez curieusement, Schröder ne fait, dans le domaine économique et social en tout cas, que très peu de réformes pendant son premier mandat, entre 98 et 2002, pas beaucoup de réformes. Il y a une réforme importante, mais qui va plutôt dans le sens de ce que lui réclame son aile gauche, c'est-à-dire une réforme du code de la nationalité, on transforme depuis longtemps c'était le cas, le droit du sang en droit du sol, c'est-à-dire qu'un Allemand jeune plutôt, étranger, né et ayant vécu 8 ans en Allemagne, devenait automatiquement allemand, mais dans les autres domaines, très peu de réformes.
Là, vous évoquez le problème du droit du sol et du droit du sang. En effet, il y a eu une réforme très importante du code de la nationalité, mais ça a été la première déconvenue de cette coalition rouge-verte. Dès la première année de son exercice du pouvoir, il voulait aussi aller au-delà de cette réforme du code de nationalité et permettre notamment la double nationalité pour les jeunes Turcs qui devenaient Allemands. Et là, il y a eu une campagne de la droite absolument extraordinaire, une campagne quasi on peut dire xénophobe, pour ne pas dire raciste, qui a contraint le gouvernement à faire marche arrière. Et cette tentative d'imposer une double nationalité pour les Turcs a fait perdre à la coalition rouge-verte ses premières élections régionales. Et là, ça a été le début de la fin, si je puis dire. Et pendant les années qui ont suivi, Schröder a décidé de ne rien faire pour ne pas, augmenter l'hostilité ou l'animosité à l'égard de son gouvernement. Et ça explique cette espèce de stagnation de la politique allemande pendant les premières années, le premier mandat de Schröder.
Y compris d'ailleurs dans la politique étrangère, qui ne bouge pas. Gerhard Schröder continue de s'appuyer encore sur la construction européenne, sur l'entente franco-allemande, qu'il vient d'ailleurs confirmer à l'Assemblée nationale française le 30 novembre 1999, France Inter, Lise Joly.
C'est un véritable plaidoyer pour l'Europe, à grand renfort de citations de Rilke, Heine, Briand et Hugo, que s'est livré le chancelier allemand, venu rassurer sur les intentions européennes et francophiles de sa République de Berlin.
Victor Hugo schreibt, zwei Nationen haben Europa geschaffen.
Victor Hugo a écrit « Deux nations ont créé l'Europe, la France et l'Allemagne. » Et la France et l'Allemagne sont le cœur de cette Europe.
Haben Sie Vertrauen.
Faites confiance à notre volonté commune de poursuivre ensemble dans cette voie.
Unbeirrbar fortzusetzen.
Schröder est aussi attaché au couple franco-allemand que ses prédécesseurs, Daniel Werner.
Oui, enfin, c'est un attachement, disons, à éclipse ou à géométrie variable. Quand il est arrivé au pouvoir, il n'avait pas de penchant particulier ni pour la France, à part le vin de Bordeaux qu'il adore, ni pour la coopération franco-allemande. Puis il s'est aperçu, un peu comme ses prédécesseurs d'ailleurs, ou comme les dirigeants français quand ils arrivent au pouvoir, il s'est aperçu qu'on ne pouvait pas faire grand-chose en Europe s'il n'y avait pas un minimum d'entente franco-allemande. Ça a été au début assez difficile, mais il y a eu des accords, par exemple sur la politique agricole commune entre la France et l'Allemagne. Il y a eu des périodes de grandes tensions, comme au moment du Conseil européen de Nice en décembre 2000. Et puis, à cause de cette tension qui en 2000 a été très très vive, Gerhard Schröder et Jacques Chirac ont décidé de resserrer les liens. Et depuis 4 ans, ils travaillaient de manière très étroite. Alors certains disent pour, d'une certaine manière, défendre leurs intérêts très immédiat en Europe, non pas pour lancer de grandes initiatives européennes, mais en tout cas, cette entente a été resserrée au cours de ces dernières années.
Axe franco-allemand, donc, dans la perspective de la construction européenne, il va même quand même plus loin que ses prédécesseurs, notamment dans un cas. En 99, pour la première fois de son histoire, depuis 1945, l'armée allemande intervient sur un théâtre d'opération militaire au Kosovo. Ça, c'est quand même une révolution.
C'est un grand changement, effectivement, dans la politique extérieure allemande. On peut dire qu'il avait été préparé par Kohl, déjà, mais jamais Kohl n'était passé à l'acte, en quelque sorte. Et il a fallu cette coalition de sociaux-démocrates et de Verts, qui avait une tradition plutôt pacifiste, pour l'Allemagne participe pour la première fois à une opération armée en Europe depuis la Deuxième Guerre mondiale. Et je pense qu'en effet, si cette coalition n'avait pas été au pouvoir, une telle action n'aurait pas été possible, parce que si ça avait été un gouvernement de droite, les jeunes militants pacifistes, qui sont les troupes des sociaux-démocrates et des Verts, auraient été tout de suite dans la rue.
Et si ça avait été un gouvernement de droite, il n'y aurait peut-être pas eu non plus autre chose très importante, l'attitude de Schröder et de l'Allemagne face à la guerre qui s'est déclenchée en Irak en 2002, avant même le déclenchement des opérations, mais au moment où il est question d'intervenir en Irak, Schröder, avec la France, avec la Russie, refuse, alors que la politique allemande a toujours été très atlantiste, refuse une intervention en Irak.
C'est le deuxième changement qui, dans une certaine mesure, est un peu l'inverse du précédent, mais c'est effectivement le deuxième changement dans la politique extérieure allemande, c'est la rupture de cette alliance de fait ou naturelle, en quelque sorte, entre l'Allemagne et les États-Unis, qui existait depuis, disons, 1949, et pour des raisons à la fois de conviction, sans doute, mais aussi pour des raisons électorales, Schröder prend cette position très, très, très dure, très ferme, contre l'intervention en Irak, en disant qu'il n'y aurait pas question d'envoyer des soldats allemands en Irak, même si cette guerre d'Irak contre Saddam Hussein avait la bénédiction du Conseil de sécurité des Nations Unies. C'était vraiment inédit dans la politique allemande, et c'est une des raisons qui lui ont permis de gagner les élections de 2002 in extremis.
Oui, parce que ça, ça se passe pendant l'été, ce refus, et c'est en septembre que la situation économique ne s'étant pas améliorée, Schröder pouvait craindre pour sa réélection. Or, il gagne à nouveau cette élection en 2002, il sort de ses difficultés. Il faut dire aussi qu'il y avait eu pendant l'été des inondations très graves au mois d'août, et là, il y a eu une réaction immédiate et assez efficace du gouvernement Schröder. Donc, tout ça le ramène au pouvoir, ou le maintient plutôt au pouvoir contre son adversaire Stoiber, de la CDU. Alors, à ce moment-là, quand même, il se décide à engager des réformes importantes.
Oui, là, il est dans ce deuxième mandat, et là, dans le domaine économique, il y a une espèce de prise de conscience que les choses ne peuvent pas continuer comme avant, et qu'il faut trancher dans le vif, en quelque sorte. Et tout à l'heure, on disait, c'est le camarade des patrons, effectivement, il prend les conseils du directeur des ressources humaines de Volkswagen, qui est un ami à lui, Peter Hartz, qui va lui conseiller un certain nombre de réformes dans le domaine de la sécurité sociale, dans le domaine des retraites, dans le domaine de la dérégulation du marché du travail, enfin des réformes que en France on qualifierait de libérales, voire d'ultra-libérales.
Et des réformes qui vont faire descendre dans la rue des millions de manifestants. 2004, France Inter, Bernadette Chamonaz.
14 ans après la réunification, les Allemands de l'Est surtout ont dit hier leur ras-le-bol d'un pays à deux vitesses. Ce n'est pas l'Allemagne dont on a rêvé, ont clamé hier à Berlin des manifestants venus de Magdebourg, de Dresde, de Leipzig. Pour Gert, son pays fait fausse route, explique-t-il à Claude Brouillot.
Je sens que l'Allemagne maintenant se change comme un pays du tiers monde. Je ne crois pas que ce gouvernement va changer beaucoup et surtout pas l'opposition. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est une phase de crise de cette démocratie. Et je suis optimiste que ça va changer un jour dans le système. Et ce que ce gouvernement fait, c'est prendre l'argent des pauvres et donner à les gens riches. Ils pensent que ça va créer du travail, mais c'est pas vrai.
L'Allemagne devient un pays du tiers-monde, il faut cesser de prendre de l'argent aux pauvres pour le donner aux riches. C'est ce qu'on entendait dans les rues de Berlin il y a à peine un an, en octobre 2004, et cela à cause d'un plan de réforme très contesté qui a été voté en décembre 2003, ce qu'on appelle l'agenda 2000, hein, je crois, 2010, pardon.
2010, oui, donc c'est un ensemble de mesures qui touchent en fait tout le système de sécurité sociale au sens très large du terme. Il y a plusieurs mesures qui ont été décidées. Dans le domaine de la retraite, par exemple, a été créé un deuxième pilier. À côté de la retraite par répartition, on a encouragé les salariés à économiser eux-mêmes pour préparer un complément de retraite. Deuxièmement, il y a eu une fusion des indemnités de chômage et de ce qu'on pourrait appeler un genre de RMI, comparé au RMI ici en France. En même temps, un certain nombre de chômeurs ont été rayés des listes des indemnités. Les indemnités ont été réduites dans leur montant,
an, oui.
Voilà, et dans leur durée. Oui. Les licenciements ont été facilités sans qu'il y ait une libéralisation totale du marché du travail. Une sorte de tiers payant a été introduit pour les médicaments. Bref, il y a toutes des mesures qui ont été prises pour essayer. Alors évidemment, l'argument fondamental de Schröder, c'est qu'il faut changer pour préserver. Il faut réformer ce système de sécurité sociale pour pouvoir sauvegarder ses principes fondamentaux.
Mais c'est quand même un remède de cheval et on peut comprendre qu'il se heurte à une opposition. Alors à droite, bien sûr, c'est la CDU qui trouve qu'on n'en fait pas assez. Mais à gauche, au sein de son propre parti, du SPD, qui a perdu des milliers d'adhérents, et au-delà de son parti plus à gauche, il y a le PDS, l'ex-parti communiste, mais au sein de son parti, et il avait quitté le SPD déjà, il y a son grand adversaire de gauche, le fondateur du Linkspartei, du parti de gauche aujourd'hui, Oscar Lafontaine, et ça fait quand même une vaste opposition dont on pourrait expliquer, d'ailleurs, qui pourrait expliquer le résultat d'hier, hein, la CDU qui reste campée sur ses positions, et une gauche qui se délite un petit peu comme en France.
Il y a deux choses, c'est-à-dire que Au sein même du SPD, la gauche du SPD, du Parti social-démocrate, a fortement critiqué ces mesures, ne les a votées qu'à contre-cœur quand elles venaient au Parlement, et c'est une des raisons pour lesquelles Schröder a annoncé des élections anticipées. Et puis, en effet, en dehors du SPD, à la gauche du SPD, s'est créé ce nouveau parti, le Linkspartei, fait à la fois des anciens communistes d'Allemagne de l'Est et des, je dirais, des déçus de la social-démocratie à l'Ouest, donc des anciens sociodémocrates, des altermondialistes, des pacifistes qui critiquent l'intervention, la participation allemande aux interventions militaires au Kosovo ou en Afghanistan, et qui ont créé cette nouvelle formation qui a obtenu hier plus de 8% des voix.
Alors justement, hier, on l'a entendu à la télévision, Gerhard Schröder s'adressait aux Allemands comme s'il était véritablement le chancelier à venir. Or, il n'a pas de majorité. Quels sont les scénarios possibles? Il faut peut-être comprendre, parce qu'en France, on a du mal à comprendre cette situation qui est totalement bloquée. Il faut peut-être comprendre quelles sont les majorités possibles et qui pourrait l'avoir derrière lui. Est-ce que c'est Angela Merkel et avec qui pourrait-elle devenir chancelière? Est-ce que c'est Gerhard Schröder et avec qui? Ou est-ce que c'est l'un et l'autre? Parce qu'on parle de la grande coalition entre le SPD de Schröder et la CDU de Angela Merkel.
En effet, personne n'a de majorité absolue, donc il faut faire une coalition. Est-ce que ce sera Angela Merkel avec les libéraux plus l'apport, par exemple, des Verts? C'est une solution. Ou bien Schröder avec les Verts plus l'apport des libéraux, c'est une autre solution. Un gouvernement minoritaire rouge-vert avec le soutien extérieur des rouges-rouges, des plus rouges, en fait, ce parti de l'extrême-gauche, ou bien la grande coalition. Et là, la grande coalition entre les chrétiens-démocrates et les sociaux-démocrates, ce n'est pas exclu, ça s'est déjà fait, comme on l'a dit tout à l'heure. Mais s'il y a cette grande coalition, Schröder n'en fera pas partie, parce qu'on ne le voit pas numéro 2 d'un gouvernement dirigé par Mme Merkel.
Mais dans tous les cas de figure, quand même, ce sera forcément des compromis. Et des compromis, ça veut dire une paralysie. Or, l'Allemagne a besoin de réformes. Tous les Allemands le reconnaissent, d'ailleurs, plus ou moins, mais ils le reconnaissent. On a l'impression, c'est ce que disait ce matin un intervenant dans le 7-9, on a l'impression, il comparait l'Allemagne à une jeune femme qui veut faire l'amour, mais qui veut rester vierge, c'est-à-dire qui veut des réformes, mais qui en même temps n'en veut pas. Ou en tout cas, n'en veut pas les conséquences. Oui, c'est un peu comme en France aujourd'hui.
C'est le résultat de ces élections. 90% des Allemands pensent qu'il faut des réformes et sont partisans de ces réformes, mais aucun ne veut que ces réformes lui coûtent et que ce soit lui qui supporte les sacrifices. Et donc, on a cette situation un petit peu curieuse. Est-ce qu'une grande coalition, ça voudrait dire des compromis? Certainement. Est-ce que ça voudrait dire la paralysie? C'est pas sûr, parce que les deux grands partis peuvent se mettre d'accord sur un programme très limité, à la fois dans ses objectifs et dans le temps, et au bout de 2 ans, quand quelques réformes auront été accomplies, eh bien, il y aura de nouvelles élections.
Merci Daniel Vernet. Je voudrais rappeler que vous avez également écrit un livre dont je recommande la lecture, qui est passionnant, et dont vous voudrez peut-être nous parler ici. Ici, il y a des questions de l'Allemagne, puisque ça s'appelle Le Roman de Berlin, qui a été publié aux éditions du Rocher. J'aimerais que vous nous en parliez, notamment de la chute du mur, qui a eu tant de conséquences jusqu'à aujourd'hui pour ce pays. À lire également Histoire de l'Allemagne contemporaine, de Heinrich August Winkler, publié chez Fayard. Je signale enfin que dans le cadre de cette journée spéciale que de France Inter, eh bien que ce soir, vous pourrez écouter à 19h20 le téléphone sonne d'Alain Bédoué qui sera consacré aux élections en Allemagne. Ces références sont disponibles par téléphone au 3230, 34 centimes la minute ou sur franceinter.com. C'était les années Schröder, la technique Sandrine Laurent, Philippe Duclos, documentation Archivina, France 2 et ITélé, Camille Poux.